La plage. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par la place.
Bonjour à toutes et à tous. On est à la troisième édition de la L2P Convention à la place. Aujourd'hui, on va parler du graffiti à l'international. Je vais commencer par me présenter très rapidement et ensuite on va pouvoir poser les questions au panel extra intéressant qui est ici. Moi je m'appelle Meu, j'ai commencé le graffiti en 2005 et ensuite je suis parti voyager pendant pas mal de temps. Je suis allé vivre à Beyrouth au Liban, plus près, mais après ça fait un Larsen de malade, non? Bon. Et donc je suis allé vivre au Liban en 2013 et j'ai continué à taguer là-bas, j'ai rencontré les graffeurs de là-bas. J'étais journaliste indépendant, surtout journaliste culturel, donc j'ai écrit pas mal d'interviews de ces artistes, dont Cabrit ici présent. Et j'ai créé le Beyrouth Graffiti Tour, qui était la première balade graffiti, de l'histoire du Liban. Je suis rentré en France en 2020 et j'ai continué à faire ça ici depuis, avec ma collègue Thomasine Zoller, voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis très content qu'on m'ait appelé pour animer cette petite table ronde, parce qu'on a un panel d'invités extrêmement diversifié et que ça va faire plaisir d'entendre toutes les expériences différentes de chacune et chacun. On va commencer par les présentations, si ça vous va, en commençant par Marco 93, juste là. Est-ce que tu peux nous dire ton blaze et décrire un peu ton style, dire très rapidement quand est-ce que tu as commencé à graffer et quelques pays où tu as peint, même si on y reviendra après par la suite.
Donc moi c'est Marco 93, M-A-R-K-O.
Vous entendez ou pas?
Ouais. J'ai commencé fin 88 et puis par l'intermédiaire du mouvement hip-hop en fait. J'essaie de danser mais j'essaie de rapper, personne m'a suivi. Et puis voilà le dessin et puis tous les mecs de ma génération en fait on s'essayait à tout. Hein. Les danseurs taguaient, voilà tout le monde dans les années 80, tout le monde se... Voilà, pratiquer toutes les disciplines. Et puis le dessin, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai continué. Donc au début, très influencé, style américain, New York, b-boy, lettrage, wild style. Et puis après, je me suis intéressé un peu à des écritures arabes, quoi, de la calligraphie arabe que j'ai digérée et que j'ai travaillé de manière abstraite. Et puis voilà, je faisais de l'abstrait. Et puis je faisais aussi du réalisme. Dans les années 90, on était une dizaine à maîtriser... le réalisme, donc ouais, il y avait Noé, il y avait bien sûr le grand Alex, voilà, on était une dizaine comme ça, et puis voilà, j'ai continué, et j'ai commencé aussi à voyager avec ma peinture, et je continue, voilà. Ça.
Excellent. Voilà, si je suis assis comme il faut, ça fait un Larsen. Et donc, Culotte, est-ce que tu peux aussi te présenter, dire ton blaze, le nom de tes crews, ton style en deux mots, l'année où tu as commencé à peindre et quelques pays où tu es allé peindre?
Alors, du coup, moi, c'est Culotte, Q-L-O-T-E. J'ai commencé à peindre en 2013, mais l'influence a commencé en 2008 quand je me suis mise à la danse et quand un ami de mon frère m'a dit la danse hip-hop. C'est aussi une culture à part entière, il y a plein de choses, il y a aussi du graffiti. Du coup, il m'a emmené en terrain, il m'a fait découvrir tous les terrains des alentours, à savoir le 91, pour ma part. Donc moi, je kiffais à mort, je le suivais quasiment tout le temps. Il m'a beaucoup introduit aussi la valeur de la photo et de l'archive. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Puis quand j'ai eu 18 ans, j'ai voulu passer de spectatrice à actrice. Je me suis un peu emmêlée avec la danse et le graffiti, mais bon, après le graffiti a pris le dessus parce que je me retrouvais mieux là-dedans. Voilà, et ensuite.
Et juste, est-ce que tu as déjà. Enfin, tu peux nous dire quelques pays dans lesquels tu as peint, même si on y reviendra après au fur et à mesure des questions.
Ouais, j'ai surtout peint en Italie, du coup, parce que je suis d'origine italienne et que mon grand-père vivait là-bas jusqu'à il y a 2 ans. Et du coup, j'ai toujours fait des allers-retours chaque année. Et du coup, l'Italie, voilà, je l'ai assez sillonné de part et d'autre. Et après, ça s'arrête juste. Ça s'arrête juste à l'Europe, quoi. Donc Lisbonne, Porto, Prague, Bucarest, Copenhague, la Belgique, et voilà, dans les grandes lignes.
Merci. Et Xoer, même question, je te les rappelle où ça va. Non, c'est bon, excellent.
Bonsoir à tous. Moi, c'est Xoer. Voilà, j'ai commencé le graffiti il y a une vingtaine d'années, en 94. Graffiti plutôt vandal, même si avec l'équipe, on faisait des fresques temps en temps. Enfin, c'était rare, quoi. Et de fil en aiguille, on a fait des rencontres qui nous ont fait faire de la déco. Et
faire de la déco, c'est quand on fait du graffiti et qu'on est rémunéré pour ça, à la différence du vandal habituel.
Voilà. Et la déco qui nous a emmenés à voyager un peu partout aussi. Donc voilà.
T'as voyagé que pour de la déco ou aussi pour du vandal?
Non, pour les vacances, mais tu connais quand. Hein, ça veut dire voilà. Donc voilà, ça veut dire que t'es dans un pays. Le premier réflexe que tu vas avoir, c'est de voir où est le magasin de bombes, ou même une quincaillerie pour voler des trucs. Enfin, ça c'est quand on était plus jeune, tu vois. Mais en tout cas, pour s'approprier du matériel, entre guillemets. Puis voilà, faire ce que t'as à faire, quoi. Voilà.
Excellent. Et tu peux juste dire quelques pays où t'as peint?
J'ai fait Brésil, Suisse, Espagne, Portugal.
Excellent. Ouais. Et après, s'il y a des anecdotes qui te viennent au cours des questions et tout, il n'y a pas de souci aussi.
Ouais, il n'y a pas de problème.
Merci. Cabrit, maintenant.
Alors, Cabrit, c'est mon blaze, ça veut dire allumette en arabe. Et moi, je suis né en 94, donc l'année où Xoer a commencé. Et moi-même, j'ai commencé en 2007 à peu près au Liban. Et j'étais à la base très influencé des pochettes d'albums de groupes de hip-hop libanais, qui étaient très très ancrés dans la culture urbaine. Et ouais. Et voilà, j'ai toujours peint depuis. J'ai intégré ça dans ma pratique plus professionnelle. Je fais des dessins animés sur le professionnellement. Donc, j'essaye de mêler un peu les deux. J'ai après, j'ai peint. J'étais amené du coup à voyager, à m'installer en France pour mes études, pour une partie de mes études à 21 ans. Et j'ai continué à peindre ici. On a mêlé le groupe de graffeurs libanais avec des graffeurs français. Donc on a créé une sorte de connexion entre les deux pays qui s'est un peu étalée aussi à travers différents pays en Europe, en Amérique du Sud. Et moi, c'est vraiment ça qui me fait vibrer dans le graff. C'est cette connexion, ces liens qui se créent, cette sensation d'appartenance à une, je sais pas, une communauté un peu souterraine, un peu obscure, mais pas dans le sens. Et voilà, ça et le fait de peindre. Entre autres, j'ai peint plus récemment en Tunisie avec des graffeurs locaux là-bas. En Allemagne, dans le cadre d'un festival Meeting of Styles avec des collègues. En Belgique également pour une résidence et voilà un peu ici et là quoi quand je me déplace. Pardon. Et en Italie aussi, voilà.
Ça roule. Merci. Et donc Dawa, je te laisse te présenter aussi si tu veux la liste des questions, elle est là.
Bon, on va essayer de faire de façon pas grand chose à dire. Bon, du coup bonjour, moi c'est Dawa, j'ai commencé début des années 2000. J'étais très 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 tôt attirée par ce milieu-là. C'est quand je montais sur Paris avec mes parents, que ce soit en voiture ou en train, je regardais qu'est-ce qui se passe à travers la vitre. Donc on regardait les lettrages, on regarde surtout les personnages. C'est plutôt moi ça qui m'a intéressée et les tags. C'est vrai que j'étais très tag et personnage. Le lettrage, c'était pas vraiment ce qui m'a botté le plus, quoi. Et c'est vrai que après, une fois qu'on est piqué, j'ai souvent assimilé ça à de la drogue. Donc je suis une vraie droguée en fait. Parce que je pense terminer comme si réellement c'est un peu notre papy en fait dans le graffiti. Il doit avoir, je sais pas, la cinquantaine passée, bien entamée, les cheveux tout blancs. Et pourtant on voit encore des psys sur le périph qui sont récents. Donc voilà, c'est un peu dans la peau. Ouais, c'est cool, ça fait bouger. Bon, pas trop, enfin, pas mondialement, mais dans l'Europe, l'Espagne, la Belgique, l'Hollande. Ouais, on s'est pas mal amusé à travers ça, quoi.
Et je vous ai pas demandé, mais déjà, Culotte et Dawa sont dans le même crew, donc dans la même équipe de graffeurs. Et c'est les FFG, comme écrit sur ce joli métro juste là. Et vous avez plutôt voyagé pour faire du vandal que pour faire...
Carrément. Ouais. Ouais, c'était plus... bon, aussi peut-être des vacances, enfin... Ouais, c'est plus... Oh, venez, on va faire ça, ce plan-là, parce qu'il y a ça, ou c'est peut-être... ça nous fait voyager, ça change, ça bouge. Enfin, après, personnellement aussi, j'ai voyagé avec des copines, mais c'est vrai que j'étais la seule tagueuse ou graffeuse, donc bon, après, c'est vrai que le naturel revient vite au galop, donc... Ouais, t'arrives toujours à te démerder une canette ou un marqueur, quelque chose, et hop. Ouais, voilà, ou des petits stores parmi que, pendant que ça glandouille. Bon, bah, toi, tu vas t'amuser, mais. Ou en rentrant le soir, ça marche. Bon, bah, toi, tu mets 3 heures de plus que tes copines, mais c'est pas grave.
Mais ouais. C'est le virus. Tu voulais dire quelque chose,
okay. Non, je voulais juste dire, bah, comme Xoer, à la base, c'était des vacances, mais bon, bah. Tu te laisses vite rattraper par l'environnement, en fait.
C'est tentant, on est d'accord. Bah on va commencer avec les questions, si ça vous va. On va commencer d'abord par... ça va tourner un peu comme ça, mais je vous invite à interagir les uns avec les autres. Évidemment, on n'est pas obligé de rendre ça trop linéaire. Et à la fin, il y aura 15 minutes ou 20 minutes de questions selon l'endroit où on en sera. On va commencer par Marco. Dans quel contexte t'as voyagé le plus souvent? Est-ce que c'était des festivals de graff ou pour des expos ou des séjours purement vandales ou, comme on disait, des vacances où, quoi qu'il arrive, il y aura aussi un aspect graff parce qu'on ne peut pas s'en empêcher?
Festival graffiti, festival hip-hop, où il y avait aussi du graffiti. Ouais, pas mal de tournées, événements artistiques, ateliers, commandes. Commande aussi, ouais.
Quel genre de commande tu peux...
Ça pouvait être pour du privé ou pour une marque. Après, j'ai fait du light painting aussi. Bon, c'est un avec le graffiti, mais c'est peindre avec de la lumière. Et bon, je faisais les deux, quoi. C'est aussi, ouais, des fois, je me prends un billet d'avion, comme ça, je pars à l'aventure. Voilà, par exemple, le Cambodge, je suis parti comme ça.
Là, tu étais en Afrique du Sud, c'est ça?
Là, ouais, bah, Afrique du Sud, pareil, j'ai pris un billet d'avion, je suis parti comme ça. Et puis... Après, c'est une communauté aussi, quoi, le graffiti. Je crois que c'est mondial. Il y a toujours quelqu'un que tu as rencontré ou quelqu'un qui a rencontré un mec de ton équipe ou que de ton entourage. Et puis, c'est comme ça. Quand il y a un étranger qui vient à Paris, tu essaies de le mettre bien. Et puis, toi, quand tu vas à l'étranger, les gens, ils essaient de te mettre bien aussi, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de sain. Mais vraiment. Et je pense que c'est ça qu'on recherche quand on va à l'étranger aussi. C'est des relations saines. Tu sais, quand tu arrives dans un bled, bah, des fois, tu es un touriste, quoi, tu es une cible. Et il n'y a pas mieux d'avoir des gens aussi sur place. Et là, tu connais vraiment le pays en profondeur et de manière naturelle et sincère. C'est ce qui m'est arrivé là, en Afrique du Sud. J'ai beaucoup aimé. Et donc, voilà, je remercie le Seigneur de m'avoir mis ça dans les mains, quoi, cette passion.
Et est-ce que tu peux me dire combien de temps maximum t'es resté dans un pays où t'étais allé pour graffer, que ce soit festival ou autre, tu vois, juste pour savoir en termes de pouvoir s'imprégner?
Un mois.
Un mois?
Ouais.
Ok.
Un mois, on avait fait des tournées, bah, notamment avec Paris Hip Hop. On avait fait une tournée au Brésil. Donc avec... moi, voilà, je suis vraiment féru de festivals, que ce soit 100% peinture ou mêlant aussi avec des rappeurs, DJ. Et donc, on avait fait une tournée, je me souviens, au Brésil. On avait fait plusieurs villes comme ça, avec Eclipse, DJ Nelson, qui est champion du monde DMC. Et voilà, c'est comme une colonie de vacances pour adultes et je kiffe. Et on avait fait aussi une autre tournée avec Paris Hip Hop, Hip Hop Citoyen. On avait fait, je ne sais plus, 7 ou 8 villes, pays d'Amérique latine. On avait commencé en Argentine et puis on avait fini... au Guatemala. Et donc, voilà, sur le chemin, c'est des rencontres, c'est des peintures, c'est,
c'est le kiff, quoi. C'est, tu fais ce que t'aimes, quoi.
On va pouvoir en parler avec d'autres questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont restés pendant des périodes comme ça, pendant des mois quelque part, juste pour que ce soit des commandes ou que ce soit des festivals ou pour la peinture?
Moi, je suis resté, on va dire, une semaine en Suisse. Pareil, c'était un festival hip-hop. Parce qu'avant, je rappais. Donc, ils nous ont invités pour le rap et pour le graph aussi. Et comme Marco disait tout à l'heure, quand j'étais à Rio, bah, j'ai rencontré un graffeur qu'on avait croisé à l'époque où on faisait beaucoup de camions à Belleville, Ménilmontant. Il avait passé une journée avec nous et il y a une soirée à Lapa et il m'interpelle et tout. Je fais un truc de ouf et tout. Mais au début, moi, je me souvenais plus de lui, enfin bref. Et du coup, bah, on a chillé voilà, à Rio et tout, nous emmener un peu dans des endroits un peu chauds. Et vas-y.
C'est typiquement le cas avec les graffeurs locaux quand on arrive, par exemple, dans des pays comme ça. Moi, j'ai vécu un tout petit peu en Colombie. Et pareil, c'est les endroits auxquels on n'aurait pas du tout accès en tant que touriste, comme tu le disais tout à l'heure. Et comme tu connais des gens du coin ou qui sont là depuis longtemps, en tout cas.
Ouais, après, il ne nous a pas emmenés dans une favela, même pas pacifiée, tu vois. Mais nous emmener dans un coin chaud, tu vois. Très, très chaud. On se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il est 2h du mat, c'est gris, il y a des gens bizarres. Mais voilà, c'est ça. Et comme, pour corroborer ce que disait Marco, c'est les rencontres, en fait. Oui, bien sûr. Sont intéressantes. Et puis aussi, voir comment les... Parce qu'une fois, j'étais au magasin à Rio... Et à un moment, il y a le mec du magasin, il était avec 2-3 types, il me fait « Ah, vas-y, fais voir comment tu tagues et tout. » Donc, je tague. Après, je dis « Vas-y, faites des tags et tout sur une feuille. » Et en fait, il taguait comme les Pixasaul, tu vois.
C'est un style de tag brésilien en particulier chaud. Qui font sur les façades très souvent, sur des dizaines de mètres de haut.
J'ai pris plein de photos de ouf, des tags à 15 mètres de haut, des dingueries, mais des tags. Parce que là-bas, quand t'as pas d'oseille, tu graves pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Les bombes au magasin coûtaient 7$. Et t'as vu, déjà, pour manger, c'est chaud. Et donc, tu vois que des Goethe. Et en fait, c'est l'exécution, moi, qui m'a fait halluciner, tu vois. C'est vraiment...
Attention, quoi, comme tu disais. Ils avaient pas accès à toutes les bombes.
C'est ça.
Ils s'adaptent. Et c'est, moi, c'est vraiment... c'est au Brésil que j'ai eu la révélation, quoi.
Ah, c'est
du
fou.
Mot « adaptation ».
Ah, ben, c'est ça.
Petit rouleau, petit acrylique blanc, petit bombe de carrossier noir.
Bah oui.
Et ça, c'est une... Et ils ont ramené de la fraîcheur dans ce game mondial, en fait. Hein. Parce que ça s'est mondialisé un peu les styles, réalisme, lettrage, abstrait, machin, là. Et eux, ils sont arrivés là-dedans avec leurs écritures et leur énergie. C'est...
Ouais. Et puis, il faut voir l'exécution. C'est fou, comme Marco, tu sais, il fait de la calligraphie.
Ça, c'est une nouvelle forme de calligraphie.
Bah, ça, c'est vieux, tu vois. C'est leur style à eux, en fait. C'est les Brésiliens, vraiment. Tu vois, Sao Paulo, Rio, tout ça.
Mais je dis nouvelle par rapport aux calligraphies classiques arabes ou latines. C'est pour ça que je disais nouvelle. Ouais, ça a quelques dizaines d'années, le Pichasar.
Non, un peu plus vieux. Peut-être une vingtaine, hein. Ouais, quand même.
Ouais,
quelques dizaines, hein. Ouais, quand même. Enfin, voilà, quoi.
Excellent. Ouais, bon, ça n'a rien à voir avec le Brésil, mais on voit quand même une adaptation ici en France où on voit de plus en plus de peintures au rouleau. Parce que bon, c'est les places aussi qui font que, mais c'est de plus en plus à Hesse en fait, et que ça coûte cher. Donc c'est ou soit tu peins parce que t'as eu un plan payé, donc tu tresses des canettes, ou soit parce que t'as fait ton taf en fait, et fait que tu utilises des bombes de peinture, donc du coup pareil, t'as ta matière première. Mais j'ai commencé, enfin vous vous souvenez, c'était 2,50 hein, pour le prix d'un grec, on avait 2 canettes en fait. Là maintenant c'est... Ouais, c'est chaud, franchement. Donc pour les nouvelles générations qui commencent, ouais, donc c'est, tu vois, de plus en plus de peau. C'est mon homme, parce que bon, du coup, mon homme est aussi graffeur, et du coup, il faisait la remarque. Regarde, c'est même plus des graffeurs, c'est même plus des taggeurs et tout. Et je dis ouais, mais enfin voilà, ils s'adaptent en fait, quoi. C'est parce que c'est la merde en fait. Voilà.
C'est-à-dire que le matériel coûte de plus en plus cher et qu'évidemment, ouais, c'est ça, l'adaptation pousse à explorer à faire apparaître des nouvelles choses et qui sont extrêmement positives.
Je vois le côté positif du truc, quoi.
En parlant de côté positif, la deuxième question, ça concerne la législation autour du graffiti. Je vais commencer par Cabrit, parce que la question, c'est est-ce que la législation dans certains pays où vous êtes allé concernant le graffiti était différente de celle en France ? Je sais qu'en Suisse, c'est le cas d'un côté, il y a d'autres pays où c'est plus facile plutôt. Est-ce que vous pouvez décrire un peu les différences qu'il y a eu ? Et comme Cabrit est libanais et que maintenant il vit en France depuis quelques années, la législation au Liban, c'est comment par rapport à la France ?
En fait, c'est très vague, quoi. Ça va vraiment dépendre des situations, mais généralement, il y a une espèce de zone grise où on ne sait pas trop si c'est légal ou si ce n'est pas. Et au fait, ça dépend vraiment du rapport, ça dépend de la chance que tu as, du moment où tu te retrouves. Au fait, tu peux être confronté avec ou bien des autorités qui sont indifférentes ou très très indigné ou sinon félicitateur, tu vois, genre ils viennent là, carrément te demander de leur écrire leur blaze. Ah ouais, vas-y, je prends une petite photo. Bon, ça c'était un peu plus vieux. C'était quand on avait commencé, c'était plutôt comme ça. Donc il y avait peut-être moins ce rapport au graphe de la part du public qui était qu'il voyait comme quelque chose de menaçant. Après, avec le temps, vu qu'il y a eu des graffs plus politiques, il y a eu des pièces qui dénonçaient aussi la corruption, qui dénonçaient le système judiciaire, etc. Là, je pense qu'ils ont pris conscience. Donc, il y a eu aussi une certaine culture chez les autorités. Donc, la première fois que je suis rentré dans un commissariat et que le chef du comico il m'a sorti le mot graffiti avec un accent arabe, tu vois, c'est du graffiti quand même, c'est étonnant d'entendre ça la première fois. Mais là où peut-être en Europe on va systématiquement t'arrêter si tu es en train de taguer dans la rue la nuit, on va te menotter directement ou bien t'envoyer au comico ou te laisser partir si t'es chanceux. Là-bas, il y a plus de flexibilité. Et j'ai vu ça dans d'autres pays, disons, du tiers-monde ou pays en voie de développement. Voilà, la perception change, au fait.
Merci. Et justement, est-ce que parmi vous, Marco, est-ce qu'au Brésil, c'était la même chose ? Est-ce qu'on peint un peu où on veut dans certains quartiers sans qu'on nous dise rien ? Ou est-ce que c'est plus encadré ?
Alors, si tu vas dans une favela, il faut être validé par quelqu'un. Tu ne vas pas comme ça. Mais en région parisienne aussi, il y a des fois dans des cités, tu ne vas pas comme ça.
Je parlais plutôt par rapport à la législation, donc à ceux qui sont en uniforme.
Par exemple, je ne sais pas, une anecdote, j'étais au Brésil pour une tournée. On était aux portes de l'Amazonie. Bref, j'avais connecté un graffeur. Il me dit, je passe à ton hôtel ce soir et puis on va faire un graff et tout. Il passe, je sors. Je lui dis, on va où ? Il est où le mur ? Il fait, à 10 mètres de l'hôtel, quoi. Je dis, bon, vas-y. Et donc, c'était toléré. Après, il y a un mec qui est passé chercher un peu des histoires. Mais c'est... Donc, voilà, suivant où t'es, voilà. Puis sur quoi tu peins aussi, quoi. Donc...
Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler un peu là-dessus ? Pardon, la Suisse, moi ça m'intéresserait si Xoa il a envie de parler sur comment ça se passe en Suisse, parce qu'il me semble que c'est plutôt l'inverse là-bas.
Non, ça, c'est comme ici. Hein.
Ah ouais ?
Et parce que moi en Suisse, j'ai fait des tags dans la rue, des voies à l'entrée de la gare de Lausanne. Et tu te fais péter, quoi. Après, heureusement que je ne me suis pas fait péter, sinon je t'aurais dit oui, il y a ça. Donc voilà, je pense que c'est la même chose qu'ici. C'est même carrément la même chose qu'ici. Après, tu vois, pour en venir au Brésil, une fois, je faisais un graffe dans la rue, tu vois. Et
en plein jour ou la nuit ?
Non,
ou...
la nuit.
La nuit.
Et en fait, c'était une rue assez fréquentée, tu vois. C'était un peu mission suicide. Donc, il y avait deux potes qui surveillaient de chaque côté. Et juste fini le T2 3 d'été, et là il me fait y a les keufs et tout. Donc je me mets à plat ventre. Je sais pas pourquoi je me suis mis à plat ventre. Eux ils sont passés et ils m'ont pas vu. Mais il faut savoir que là-bas, les keufs, moi je pense que s'ils m'avaient serré, je pense que j'aurais pu les corrompre. Parce que là-bas, ils sont corruptibles, tu vois, c'est le tiers-monde. Toi, j'ai des potes, ils fumaient des spliffs à la plage. Ils ont dû payer 100 euros, quoi. Pour partir, tu vois. Oui, ça... Ils ont payé 300 réels.
Il y a différents moyens de s'en sortir.
Ah, voilà, mais tu as quand même l'adrénaline. Parce qu'une fois, on était posé à côté d'un food truck. Non, non, mais c'est vrai, je raconte. Tu vois, et tu sais, j'étais comme ça. Tu sais, à la décontracte, la main dans le slibar et tout. Et on se fait contrôler. Et direct, le keuf, il me braque avec son... Tu sais, parce que là-bas, tu vois, les gens sont armés, tu vois. Puis moi, tu sais, j'étais en... Pas Marcel truc, mais débardeur, short, claquette, tu vois. Comme les locaux, tu vois. Je suis pas arrivé en Gucci, Prada, de toute façon. C'est des trucs que je mets pas, mais tu vois, normal. Et direct, donc, tu vois, quand les keufs, ils sont passés, là, quand je faisais mon truc, je me suis dit, oh, où je me, tu vois, où ça va être chaud, où va falloir allonger, tu vois. Après, si je m'étais posé sur un mur en pleine journée, comme ça, un mur, tu sais, décrépit, ou, tu vois, un mur abandonné avec, tu sais, personnages, trucs, machin. Là, je pense même les keufs, ils passent, ils, tu vois, ils te font... Voilà, ça dépend ce que tu fais, en fait.
Et encore une fois, selon les quartiers, j'imagine, si l'immeuble, il est tout neuf ou s'il est plus vieux, et comme tu dis, décrépit et tout, c'est, les réactions sont différentes.
C'est toléré, tu fais, voilà, je mets de la couleur, regardez, tu vois. Puis voilà, quoi.
Et à votre avis, si tu peux passer le micro à qui veut parler en premier, mais comment... Comment justement ces différences de législation, elles influencent la scène graffiti locale? Donc, c'est-à-dire quand vous vous baladez dans la rue, dans ces pays-là où la législation est vraiment différente d'ici, comment ça se traduit, la différence de réaction des autorités par rapport au graffiti? Si tu veux, toi tu l'as déjà dit, Cabrit, un peu, au Liban, il y a plein de choses très abouties sur les murs, faites illégalement.
Je pense que les dangers, au fait, diffèrent. Là, on a plus, peut-être, on aura plus de chances de tomber sur des autorités qui vont nous arrêter dans la pratique. Dans certains endroits, c'est plutôt des habitants, des locaux. C'est des fois des criminels, quoi. Des miliciens dans certains pays, en fait, c'est là aussi où ça devient très ambigu, parce qu'on va tomber sur des personnes qui n'ont pas vraiment la légitimité de l'autorité, mais qui ont quand même un flingue sur eux, qui ont, donc c'est, bref, je pense que j'ai dévié dans la question, mais ouais.
Ben, je demandais comment ça se traduisait la scène graffiti locale quand tu te balades à Beyrouth. Comment tu vois que clairement c'est pas la même législation sur le graffiti? C'est parce que au lieu qu'il y ait beaucoup, par exemple, de tags et de flop, il y a plus des choses plus abouties. Enfin, ça se voit visuellement qu'on est dans un endroit où ça a l'air d'être plus relax. Et je crois que c'est pareil au Brésil. Moi, j'avais vu ça un peu à Bogota. Et au Brésil, ça doit être un peu pareil. Il y a plus de quartiers qui ressemblent aux rues où c'est légal à Paris.
C'est plus organique, quoi. Même genre, par rapport à l'Espagne, par exemple, si on marche à Barcelone... Dans des petites ruelles, en fait, je suis pas allé moi-même, mais j'ai vu des livres et ça m'avait bien captivé finalement que ça soit juste aussi présent, quoi, qu'il n'y ait pas juste des espaces dédiés, mais plutôt que ça soit, bon, ça fait que des villes sont aussi sont pas aussi carrées que le boulevard Haussmann, donc c'est normal aussi, quoi.
Ouais, pour revenir au Brésil, c'est vrai que, et comme disait Xoer, quoi, il y a des pichassas partout. Je compare ça un peu avec des strates, quoi, en fait. En plein centre-ville, t'as des fresques. Alors, c'est très figuratif, souvent, ce qu'ils font. Donc, les Brésiliens, ils se trouvent un petit personnage qui décline à foison. Donc, ils font des belles scènes et tout. Et donc, voilà, même en plein centre-ville, hein, que ce soit à Rio ou à Sao Paulo, t'as des fresques très abouties, techniques en bas, qui peuvent monter à 3 mètres, 4 mètres, super longues. Et puis après, tu as le boulot des pichassas, c'est des strates, quoi, et ça va jusqu'au toit, c'est complètement éclaté, quoi. Sao Paulo, c'est hallucinant, c'est ouf.
Et pour ceux qui sont plutôt spécialisés dans le graffiti vandal, donc Zoher... Ah pardon, vas-y.
Moi, je voulais dire qu'au contraire, des fois, quand même, quand la loi est plus dure, ça te pousse peut-être aussi à pousser tes limites.
Et comment ça se traduit visuellement que...
Bah, je sais pas, par exemple, je vais prendre l'exemple de Copenhague. Tu fais le métro là-bas, tu te fais péter sur le métro, tu vas en prison. Mais en soi, tu vois des panels sur le métro, tu vois. Enfin, t'en vois plus qu'à Paris. Enfin bon, là j'exagère, mais voilà, quoi. Les trains à Copenhague, enfin moi je me rappelle avoir vu vraiment... Là je parle des trains et pas des métros. Les trains, je me rappelle vraiment avoir vu beaucoup de panels comparé à ce qu'on peut voir en France. Alors qu'en France, bah, on prend le RER... tu peux attendre une heure sur le quai, tu vas pas voir un panel, quoi.
Un panel, c'est un graffiti sur un train, si, pour ceux d'entre vous qui savent pas.
Alors qu'à Copenhague, bah, chaque rame, moi, je les voyais péter, quoi. Donc, voilà.
Et dans la rue, à Copenhague ou en Suisse, est-ce qu'il y avait beaucoup de graffiti illégal ? Moi, j'ai été une fois en Suisse, je crois que j'ai vu trois tags en 48 heures.
Il y en a, mais après, j'ai une anecdote. On était avec des potes, on était au Luxembourg. Et il y a des potes, des rappeurs allemands, les 187, là, qui faisaient un concert à Luxembourg. Et donc, ils nous ont invités et tout. Et donc, à côté de la salle de concert, il y avait un mur. Donc, on a fait un petit graff et tout, tranquille, l'après-midi. Ensuite, après, on est parti dans une papeterie faire les courses, tu vois. Parti bien faire les courses. J'étais même étonné par la gentillesse des dames qui tenaient ce magasin. Et après, on a trouvé un terrain, on a fait des petits chromes et tout, des graffs argentés et noirs. Et en fait, il y a un des... c'est moi qui l'arsène, hein ?
Non, je crois pas.
Ouais.
Quelqu'un qui fait un bruit de l'arsène.
Ah ouais, un bruit de canard. En fait, il y a un des Allemands qui reçoit un coup de fil. C'est qu'en fait, il y a les keufs qui nous recherchaient, tu vois. Mais c'était en plein jour. Ils nous recherchaient et tout. Et en fait, ils avaient pris les bombes de peinture. En fait, il y avait la police scientifique qui était là. Avec, tu sais, comme dans NCIS, là, ou je sais pas quoi, tu vois. Ils prenaient les empreintes sur les bubs, tout ça. Ils prenaient des photos.
Ils prenaient ça super au sérieux. Ouais.
C'est Euro Disney, là-bas, tu vois. Et du coup, ça nous a un peu étonnés, tu vois. Donc, on s'est un peu fondu dans la foule pendant 2-3 heures. Après, on est revenu dans la salle de concert. Mais ici, il n'y a pas les trucs comme ça. Tu vois, il y a des pays... pour revenir, rappelle-moi ton blaze.
Culotte.
Tu vois, pour revenir à ce qu'elle disait, culotte. Moi, parce que j'ai plein. Moi, je fais pas trop de métro quand j'étais plus jeune. Mais je connais des mecs, c'est des acharnés. Tu vois, ça fait 20 ans, ils font le monde entier. Et ils m'ont raconté que, par exemple, à Londres. Ouais, voilà, c'est de lui que je parlais, tu vois. Bah, à Londres, en fait. Quand en fait. Il faut faire très, 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 très vite. Parce qu'en fait, les keufs, ils encerclent le quartier en 5 minutes. Il y a des pays à l'époque, comme la Hollande, qui eux aussi relevaient les empreintes sur les bombes. C'est pour ça que ça a poussé les graffeurs à mettre des gants, des trucs d'ouf. Même quand ils vont au magasin de bombes, ils prennent les bombes avec des gants en plastique, tu vois. Bah ouais. Et tu vois, mais je crois que maintenant, c'est rentré dans la législation aussi, prendre les empreintes, non, je crois.
Ouais. On dirait que ça marche pas très bien en tout cas, parce que ça tourne encore pas mal les métros. Et,
Après, tu vois, j'ai une petite anecdote aussi, après je laisse le micro. C'est qu'il y a Karim Boucherka, là, qui a fait Descente Interdite. En fait, il préparait un livre sur la répression. Et il disait, en fait, c'est des vagues de répression qu'il y a. Ce n'est pas une répression en flux tendu. C'est-à-dire que pendant 3 ans, il va y avoir une cellule anti-graffiti. Pendant 4 ans, il y a le néant. Après, pendant 2 ans... Et en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont passés dans les mailles du filet. Ouais, inaperçus, voilà. C'est que, en fait, la répression, c'est pas en continu, quoi.
C'est parce qu'en fait, elle est assez efficace. Par exemple, à Paris, pendant des années, il n'y a plus eu de métro graffé qui tournait parce qu'ils avaient vraiment fait beaucoup de boulot pour arrêter le maximum de gens. Ensuite, j'imagine que comme ils voient qu'il n'y en a plus, ils mettent moins de budget là-dedans et tout ça. Donc, les graffeurs s'y remettent. Donc, ils recréent... Enfin, c'est peut-être une espèce de cercle qui s'entretient.
En fait, tu vois, quand... Après les... Moi, j'appelle ça l'âge d'or de 88 à... On va dire 92. Tu vois, quand c'était vraiment le carton de ouf, quand il y avait des tas... Enfin, tu connais, Marco, t'as vu ? Quand c'était vraiment carton. Après, tu sais, il y a eu une période, on pensait que c'était une période blanche, tu vois, entre 93 et 2000. Mais je crois que c'était pire qu'avant, parce que les mecs, en fait, ils graffaient ce que les mecs taguaient, en fait. Ils le faisaient en graffe, tu vois, et sur tout le métro. Et donc, du coup, je pense que ça ne s'est jamais arrêté. En tout cas, je parle du métro et des trains, tu vois. On a toujours eu, en fait. Après, ça sortait moins, mais les Khmers, ils s'en foutaient. Eux, ils prenaient leurs photos, ils étaient contents, tu vois. Enfin, voilà, quoi.
Merci. Est-ce que vous pouvez me parler de vos rapports avec les graffeurs locaux ? Donc, on va parler plutôt de choses qui ne sont pas rémunérées, pas forcément illégales, mais pas rémunérées. Est-ce que vous avez vu des différences majeures avec quand vous peignez chez vous, quoi ? Et quel genre de différence ? Si vous avez des anecdotes ou des choses comme ça, genre comment vous avez été accueilli en tant qu'étranger dans les pays où vous avez graffé par les graffeurs locaux, si vous avez peint avec eux ?
Moi, j'ai toujours eu des rapports très positifs avec les graffeurs, même quand ils... Peu importe où on était, encore une fois, on a l'impression d'être dans une communauté. Après, je sais pas, peut-être que ça change avec le temps, ou que ce n'était pas le cas avant, mais en tout cas, je n'ai jamais vraiment senti une mauvaise électricité avec des graffeurs, que ce soit locaux ou dans étrangers ou quoi que ce soit.
Non.
Sauvage.
Je parle pas forcément de mauvaise expérience, mais moi, à chaque fois que j'ai voyagé, quand je me suis installé au Liban ou en Colombie, j'avais l'impression que c'était plus facile quand on était un étranger, parce qu'il y a pas mal de gens de la scène locale qui vont dire « Ah, il y a un Français qui est là, on va lui montrer tel truc », et c'est plus novateur de ça les change un peu de peindre avec quelqu'un qui a un style qui n'est pas du coin, qui ne vient pas du coin et tout. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plus un passeport. Quand je suis rentré à Paris, je n'ai pas été accueilli de la même manière, alors que c'est la ville où je suis né, qu'à chaque fois que j'étais dans des pays où on ne parlait pas français, ne serait-ce que ça.
Il y a un dicton qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». Tu vas aller ailleurs, tu vas susciter plus d'intrigue, quoi, voilà.
Non ? Ouais. T'as le temps, t'inquiète. C'était pour savoir si vous aviez eu des différences d'accueil avec les scènes étrangères, des scènes de graphes étrangères qu'avec ouais.
Moi j'aurais tendance à dire que Paris c'est le pire, mais en même temps c'est là où je suis née et où j'ai vécu toute ma vie, donc voilà, on en revient au même sujet, quoi. Mais c'est vrai que par exemple la Belgique, bon, après je cherche pas spécialement à parler avec les gens ou à me connecter spécialement, mais après le hasard des fois fait que voilà, ça va matcher direct quand tu vas rencontrer des gens, quoi. Belgique, moi je peux rien dire là-bas, ils sont tous gentils. Enfin, je sais pas si c'est la Belgique en elle-même, mais je sais pas, j'ai eu le sentiment une fois à Liège, enfin j'y étais plusieurs fois, et en l'occurrence à Liège, j'avais rencontré des graffeurs là-bas et j'ai eu l'impression d'être accueillie comme une reine. Enfin, et je me dis à Paris, jamais ça ne m'arrivera ou ça ne m'est arrivé. On m'a emmenée dans un terrain à côté, puis le soir on a été faire un train, du coup, enfin, même de moi-même, même, je le reconnais. Si je rencontre un étranger demain, je sais pas, au shop du coin, quoi, je vais pas l'emmener faire un panel avec moi le soir même. Hein, ça c'est
donc
pas possible.
Donc c'est Paris, quoi.
Ouais, peut-être, hein, ouais, finalement.
Ça dépend des gens. Mais... Tu veux dire quelque chose ?
Ouais, l'accueil
positif ou négatif, hein, les deux.
C'est vrai que j'ai toujours été bien accueilli. Enfin, voilà. Concrètement. Après, tu vois, c'est. En fait, t'aurais pu poser la question à l'inverse, tu vois. Genre, est-ce que vous avez déjà accueilli des graffeurs étrangers ici ? Et en fait, je pense que c'est la même chose partout, tu vois. C'est une question de feeling et tout.
Bien sûr.
Et puis voilà, quoi, tu vois. Si t'arrives comme dans un pays comme la Suisse ou la Belgique, et tu fais le connard de français, tu te la racontes et tout, il y a peut-être des fanboys qui vont kiffer ça. Mais franchement, les vraies personnes, ils vont pas te calculer en vrai. Tu vois, ils vont dire, t'es mal à 8, tu vois ce que je veux dire. Ça se trouve même, ils ont fait 100 fois plus que toi. Enfin bref, tu vois. Donc, accueil. Moi, comme je te dis, le graffeur, il nous a emmené chez lui, là, de Rio. Donc, on voyait vraiment le struggle, tu vois, la lutte, le hustle, tu vois. Il faisait des petites toiles, tout ça, il les vendait. Il se démerdait, quoi, tu vois. Et il faisait des graffitis sur les habits, il vendait, tout ça. Parce que c'est ça, tu vois.
Là, pour vivre de ce qu'il savait faire, ouais.
Ouais, voilà. Et ouais, il nous a bien accueillis, tu vois. Il nous a emmenés dans quelques endroits et tout, sympa. Et voilà. Après, tu sens que tu sais, c'est le tiers-monde quand même. Donc, au bout d'un moment, tu sais, ça gratte un peu. Tu sais, ils se disent, oh, c'est les Européens, ils ont de l'oseille, tu vois. Et ça gratte un peu. Mais on ne voulait pas, tu vois, parce que dans le fond, c'était un bon gars. Après,
et ça, ça va au-delà du graffiti aussi. On est, c'est pas, ça n'a pas de rapport direct, justement. C'est plus à cause du fait que ce soit des pays très pauvres, comme tu dis,
ah, c'est
du tiers-monde. Ouais, c'est...
Ouais, c'est ça. Et attends, excuse-moi.
Vas-y.
Putain, rien que je lâche pas le mic.
Mais non, t'inquiète.
En fait, non, j'ai eu un flashback, là, en fait. Tu sais ce que j'ai passé 2 ans en Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai passé 2 ans en Côte d'Ivoire, de Abidjan, ouais. 98 à 2000. Et là-bas, ce qui m'a frappé... En fait, il y a 2 choses qui m'ont frappé. La première, c'est que les bus, c'était des... En fait, c'était en 98, donc c'était les bus des, peut-être des années 70 qu'ils envoyaient en Afrique, quoi, tu vois. Les bus étaient tous tagués, mais au cirage. Pas à la bombe, ni au cirage, tu vois. Et les élèves, en fait, dès qu'ils sortaient de l'école... Et ça, ça m'avait frappé, je l'avais vu de mes yeux. Il montait sur les bus, et les bus, ils roulaient, comme il y a les mecs qui font le train de surfing, là, tu vois. Et là, ils faisaient la même chose avec les bus, quoi. C'était fou. Mais j'ai un souvenir. En fait, tous les bus étaient maraves.
Et ça ressemblait à du tag traditionnel?
Non, c'était du tag, quoi.
Ouais.
Ouais.
C'est... Plein de surnoms et de trucs comme ça, au cirage noir sur le bus.
Non, cirage marron.
Cirage marron,
ouais. Après, j'en ai jamais rencontré un, tu vois. Mais voilà, ça m'avait frappé, ça. Voilà.
Pour Culotte et Dawa, une petite question juste pour vous. Est-ce qu'en tant que femme dans le graffiti, vous avez senti des différences dans l'accueil dans d'autres pays? Après, on pourra passer à une autre question, mais c'était intéressant de savoir si, de ce point de vue-là, il y avait eu plus de rejet ou au contraire plus d'indifférence au fait d'être une femme dans le graffiti?
Oui. Bon, là, forcément, j'allais dire directement le négatif que j'avais en tête, mais parce que souvent on retient le négatif. Mais ouais, quand même, dans le sens où, bah vas-y, c'est une petite meuf, elle est haute comme 3 pommes, je la prends un peu pour une bouffonne, quoi. Dans le sens où. Une anecdote en Italie l'été dernier. Je suis partie avec une copine dans le but clairement vandale de faire que du vandale. Bref. Et ma copine me dit vas-y, je vais demander à un pote pour avoir un contact. Chose que j'aime pas trop faire. Bref, je lui fais confiance. On contacte un mec, dont je ne citerai pas le blaze, mais qui avait un crew mondialement connu. Je me suis dit ok. Et le mec nous a emmenés dans le dépôt le plus connu de tous les Français, alors que le gars était clairement de la ville, quoi. Et il avait l'impression de nous faire découvrir un truc de ouf, alors que déjà, moi, je l'avais déjà fait auparavant. Je savais que c'était un spot qui était très convoité des touristes, à tel point que tu vas là-bas, il y a des montagnes de bombes vides, tellement tout le monde s'en fout, quoi. Enfin...
Donc c'est pas l'endroit un peu secret auquel tu aurais aimé avoir accès vu que la personne apparemment connaissait la ville par cœur.
C'est ça, mais je veux dire, le gars, il a cru on était des gamines qui étaient là juste pour avoir envie de faire de la peinture un peu et qu'on était contentes à la fin du compte. Mais je me suis dit, ton pote, c'est un peu un charlatan. Sinon, je me rappelle aussi d'un Portugais qui... j'étais partie voir une copine aussi qui taguait au Portugal et... Elle a ramené un pote à elle qui a voulu nous emmener sur un plan ou je ne sais quoi, enfin bref. Et le gars ne m'a jamais regardé dans les yeux, ne m'a jamais parlé, même quand j'essayais d'interagir avec lui. Et je me suis dit, il y a sûrement un problème. Et je pense que c'était le problème que je sois une femme et qu'il me prenait très sérieusement, pas du tout au sérieux, finalement.
T'étais allée voir un pote ou une pote là-bas?
Non, j'étais allée voir une copine. Et ma copine, à la fin, j'ai pas voulu rentrer dans des conflits ou quoi, parce que c'était son ami, mais à la fin, quand il est parti, je lui ai dit, ton pote, il a un problème. Et elle me dit, c'était comme ça au début, mais maintenant, ça va mieux, faut le connaître. Ok.
D'accord, mais t'as pas vu de différence majeure, genre plutôt qui concerne une scène dans l'ensemble ou pas mal de gens dans une scène, tu vois, c'est plus des anecdotes comme ça, un peu comme en France, des gens qui sont insupportables pour ce genre de raisons et d'autres qui s'en fichent.
Mais juste pour dire que du coup, ça m'a pas spécialement privilégié d'être une femme à ce moment-là, ça m'a plutôt défavorisée parce que pour le coup, au Portugal, on était aussi avec un autre mec. Que le gars ne connaissait pas non plus et ils interagissaient beaucoup ensemble et moi c'était comme si j'existais pas en fait, tu vois, plus dans ce sens là bon après voilà, ça peut être partout hein.
Ok, on va passer à la question sur le matériel qu'on a un peu abordé tout à l'heure surtout par Marco, est-ce qu'on peut en reparler un peu, les bombes de peinture, les bonnes bombes de peinture pour le graphe aujourd'hui ça coûte pas loin de 4€ ou plus de 4€. On ne les trouve pas forcément dans tous les pays où on va. Parfois, ça coûte super cher, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux développer un peu
Comme je disais, Xoer, après, il y a la quincaillerie. Moi, pendant pas mal d'années, je faisais un truc qu'il ne faut pas faire, mais souvent, j'emmenais dans mes bagages 2-3 bombes d'ici. Un noir, un blanc, puis une couleur au hasard. Et tout en sachant qu'après, j'allais m'adapter avec ce qu'il y avait. Hein. Donc, en Afrique, tout ça, pendant très, très longtemps, c'était des bombes... chinoise là, tu vois, c'est un peu comme avec les bombes qu'on a commencé dans les années 80, les bombes de carrossier, donc très fluides, qui couvrent pas. Mais il faut s'adapter. En Algérie, une fois, j'ai ramené 40 bombes quoi, en soute. Ils les ont trouvées.
C'est illégal ça, ouais. On est
ouais, non, c'est ouais. Dangereux même. Ouais, c'est vrai que avec le recul, c'est un peu con.
Parce que c'est sous pression, donc je comprends pas trop comment ça marche, mais il faut pas le faire a priori.
Faut pas le faire. Mais hésitez pas, c'est quoi. Et puis après, ouais, comme il disait Xoer, après, moi mon kiff, quand je vais dans un pays, j'aime bien aller dans le marché. Tu vois, au marché, tu vois des vrais gens. Tu vois une vraie dame qui vend des vraies tomates, qui vend des légumes. À côté, tu as un mec qui vend des casseroles, des lampes, tu vois, un marqueur, une éponge. Et puis voilà, j'aime bien aussi trouver des petits outils, des trucs comme ça. Puis c'est l'adaptation. Et puis voilà, même avec des bombes de merde, tu t'adaptes. Après, tu vas acheter un petit rouleau. Un petit peu d'acrylique. Après, l'acrylique, c'est bien développé. En Afrique, partout, il y a de la bonne acrylique. Et puis, ça dépend quel pays. Afrique du Sud, ils ont toutes les marques. Ils ont des bonnes marques. Après, il y a certains pays, bon, Sénégal, tout ça, ils se font importer des bonnes bombes. Mais pendant des années, ils ont galéré avec des bombes chinoises, quoi. Et je compare ça un peu, tu sais, comme les sportifs. Tu sais, t'as des mecs qui courent, ils se mettent des sacs de sable au pied, tu vois. Et donc, tous mes potes, là, sénégalais, qui peignent depuis des années avec des bombes pas faciles et qui sont mis dans le réalisme, et c'était pas évident. Quand les vraies bombes sont arrivées, tu vois, avec les... C'est comme s'ils avaient lâché les... Et ils se sont envolés d'un coup, quoi. Ça a beaucoup évolué. Mais voilà, le mot, il est là, c'est adaptation. Et puis, ça va te forcer à essayer des choses... Voilà, des choses plus rapides, des choses plus simples, plus spontanées, un peu plus sales.
Toi, t'as appris des choses là-bas, justement. Est-ce qu'il y a des choses qui te sont restées?
Ouais, le Brésil, ça m'a... En termes de couleurs, en termes de thèmes, tout ce qui est... t'as vécu là-bas à Bogota, tout ça. Donc, Amérique latine, les thèmes, j'adore. C'est l'homme connecté avec la nature, le cosmos. Souvent, il y a ces choses-là, j'aime bien.
Et en termes de matériel, est-ce qu'il y a des choses que toi ou d'autres, vous avez dû faire parce qu'il n'y avait pas le matériel qu'il fallait à disposition et qui vous ont peut-être appris quelque chose dont il vous est resté quelque chose de l'expérience
Au Brésil, ils n'avaient pas toutes les couleurs. Donc, ils avaient le mélangeur, ce qu'ils appellent. Tu sais, tu mets deux bombes et tu peux avoir toutes les couleurs. Il y a plein de... L'homme s'adapte dans tout. Et c'est le mot que je retire. Et puis, tu sais, moi, j'ai voyagé avec ce fantasme. Tu sais, de revenir changer, quoi, de trouver l'inspiration. Mais c'est pas comme ça. C'est comme quand tu vas en boîte de nuit, tu vois, tu dis pas je vais trouver la femme de ma vie. J'ai fait plein de pays et il faut le digérer, le truc, ça vient après. Que ce soit dans. Mais c'est vrai que l'adaptation dans le matériel, puis même ce que tu vois, quoi, tu vois, il y a une énergie, quoi. J'aime pas rester pendant des heures à regarder quelqu'un peindre, mais ça m'est arrivé quelquefois de voir quelqu'un qui dégage une putain d'énergie dans le mouvement, dans tout, dans le résultat. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper réaliste et tout. Hein. Souvent, on peut voir un graphe hyper réaliste, on se dit il y a de la technique. Mais quelquefois, un truc fait en un quart d'heure, ça envoie quelque chose de très très fort. Et c'est ça que je recherche. Quoi, voilà.
Excellent.
rebondir sur.
Bien sûr, quoi. Bah oui, parce que. Ouais.
Je me suis beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, mais je me suis beaucoup identifié à ce que tu disais. Sachant qu'on a commencé au milieu des années 2000 à Beyrouth, qu'il n'y avait pas nécessairement de matériel professionnel comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire des bombes ultra bien confectionnées sur mesure pour que ça puisse vraiment. Tenir aux attentes des graffeurs, c'est-à-dire avoir des lignes ultra claires, des remplissages très fluides, des couleurs très opaques, etc. On était plutôt à la shit bomb de 1 dollar qui est confectionnée aux Émirats et qui fait rien, quoi. Les couleurs se fondent au bout d'un certain moment. Et en fait, j'avais revu ça en Tunisie. Où les gars, ils ont complètement lâché l'idée de la bombe. Déjà, ils s'en servent des fois pour faire des effets bien assumés de bombe, des coulures, etc. Mais sinon, ils sont là à utiliser la brosse avec des couleurs acryliques pour reprendre, mais même en l'adaptant au code du graphe occidental. Donc, lettrage 3D sur contour, etc. Mais ils sont tous avec des broches. Et c'est vrai que ça rajoute beaucoup de grains, c'est une différente. En fait, ça brise. Ça, pour moi, ça m'a fait complètement éclater les barrières des codes du graphe classique, quoi. Et c'était très très intéressant à voir. Et je pense que c'est vraiment l'intérêt du voyage quand on fait quoi que ce soit qui soit créatif. La musique ou la littérature, on est toujours le fait simplement de s'exposer à différentes approches, différentes matières fait que ouais, on s'enrichit quoi un peu.
Mais c'est vrai que je compare ça un peu au vinyle, tu vois, t'as on est arrivé à une technique, si tu veux, là tu vas dans un magasin à Paris, t'as toutes les couleurs, t'as toutes les pressions, t'as tous les embouts, les capes de voilà tout ce que tu peux imaginer, donc la technique elle est. Eh ben, je trouve beaucoup de charme quelquefois avec ce qu'on appelle cap d'origine. Tu vois, les bombes un peu dégueulasses avec l'embout qui te fait un peu baveux, avec même une petite coulure. Je trouve que ça a beaucoup de charme. Tu vois, c'est un peu comme le craquement du vinyle. Tu vois, voilà. C'est des choses que. Le grain, ouais. L'erreur, le truc spontané, qui est inimitable et qui est pour des puristes, quoi. C'est beau à voir.
Et comme tu disais, dès que le matériel de bonne qualité arrive dans un pays où les gens ont commencé avant, avec ce qu'ils avaient sous la main, le niveau, enfin, visuellement, ça prend une autre dimension, clairement. Je sais qu'on a déjà parlé de la législation concernant le graffiti, mais est-ce que vous avez eu des bonnes ou mauvaises expériences avec la police d'autres pays dont vous voudriez parler brièvement ? Bonnes ou mauvaises, sachant que... Ça peut être les deux.
L'Espagne, c'est vrai qu'ils sont. Le Nord, c'est vrai qu'ils sont quand même bien chauds, quoi. Ils mettent la pression, ils sont vénères, quand même, on dirait des baqueux. Ouais, c'est spécial quand même à vivre, mais.
Mais tu t'es fait contrôler par la police en faisant un train dans un endroit où tu n'avais pas le droit d'être ou
non,
dans la
ça
rue,
va, c'était
ou...
pas un train, c'était juste de la rue et tout, mais ça te met déjà la pression pour dire, bon, si je fais un truc, il faut vraiment que je fasse attention à bien surveiller mes arrières ou il faut bien que je réfléchisse à quand je vais y aller, je vais pas comme ça, n'importe comment, quoi. Mais c'est vrai que ouais, ça te met une certaine pression et ce que tu disais tout à l'heure, l'histoire de Tran, c'est faut quand même réfléchir, voilà, il y a des conséquences après. Est-ce que tu es tout seul dans la vie ? Est-ce que en France, ta vie, c'est comment ? Si tu as ton travail, si tu as ton loyer à payer, si tu as des enfants qui t'attendent, enfin, quoi, ok. Donc, il y a beaucoup de questions quand même qui rentrent en jeu. Et c'est pas que sur un coup de tête. Ouais, c'est vrai que bon, des fois, ça peut arriver vite, quoi. Et même en France aussi. Hein.
Moi, pareil.
Excuse-moi, je te recoupe, mais ouais, du coup, c'est encore pire justement quand c'est pas ton pays, parce qu'imagine, voilà, si t'arrives par la case prison, c'est pas ton pays, là, c'est vrai, ça devient problématique. Et si c'est juste une histoire en plus pour du graffiti, bah, c'est encore plus bidon, je trouve. Donc,
ça arrivait à des gens, ça arrivait à des gens. Ouais, qui est. Prison.
Prison,
moi je veux pas dire les blazes ici.
Non,
mais
bien sûr que non.
Il y en a eu, tu vois, pour le graffiti, tu vois.
Pour avoir peint sur un train particulièrement.
C'était pas non plus, tu vois, mais bah ouais, pour du métro. Moi, je crois les deux c'était pour du métro, je crois. Moi pareil, hein, Barcelone, un soir, j'étais avec un pote à moi et tout, et on taguait et tout dans les petites rues là, parallèles à la Ramblas, au Ramblas plutôt. Et en fait, à un moment, je sais plus ce que je fais. Ouais, je monte sur une poubelle pour faire une place en hauteur. Un tag au Fat Cap, tiens, un gros trait de ça. Je dédicace mon pote. Et là, au loin, je vois Guarda Civil. Et je les vois, mais ils ne me voient pas. Donc j'ai le temps de sauter et jeter la bombe. Et là, en fait, un des keufs, il me voit comme ça. Il s'approche de moi. Il fait qu'est-ce que t'as fait ? Je fais I'm drunk. Et genre, je suis sous, je sais pas, don't understand. Et il me fait Hiroputa, t'as fait quoi, Hiroputa ? Et moi, je disais I don't understand. Parce que la Guardia Civile, ils sont chauds, ils sont un peu. Tu vois, ils ont de la taurine. Je sais pas, c'est pas du sang qu'ils ont, tu vois. Et moi, je faisais le, tu vois, I'm drunk, I don't understand, tu vois. Et j'avais un t-shirt. Je sais plus c'était quoi, mais je sais plus si c'était des bombes de peinture et tout, tu vois. Et tu sais, mais il était vénère parce que moi j'avais rien sur moi, tu vois. Il fait truc et tout, je sais pas, tu vois. Il a regardé partout. Après, il m'a laissé partir. Après, je me suis dit, ah, c'est chaud. Franchement, oui, c'est chaud.
Tu l'as échappé belle, ouais.
Tu vois, tu sais, dans les années 2000, quand on faisait les premières décos qu'on faisait sur les rideaux à Paris. Bah, c'était chaud. Il fallait l'autorisation du commerçant, tu vois, pour pouvoir mettre le nom de son enseigne sur le rideau. Parce que les keufs, ils ne connaissaient pas ce truc-là. Donc, ils venaient à 2-3 voitures, sortaient les tarpés des fois, ils nous braquaient. Oh, c'est juste de la peinture. Bah, qu'est-ce que vous faites ? Tu ne bouges pas ! Calme-toi, là. On fait une bouchée Bernard, là. Tu vois, maintenant, ça a évolué, tu vois. Maintenant, ils nous félicitent et tout. Mais avant, c'était chaud, tu vois. Mais il y a des pays, je crois, ils sont restés en 2000 ou en. Les keufs là-bas, c'est chaud, tu vois. C'est vraiment chaud, tu vois. Enfin,
voilà. Moi, je me rappelle avoir été marqué quand je suis arrivé au Liban et que j'ai vu justement plein de pièces dont ça se voyait qu'elles avaient pris 3-4 heures à être faites, et des gros murs et tout ça. Et je demandais à mes potes, mais vous avez l'autorisation ? Pas du tout, non, c'est juste qu'on sait que là, c'est pas un lieu sain, c'est pas sur un immeuble tout neuf, comme on disait tout à l'heure. Et moi, ça m'arrivait plusieurs fois, j'ai vécu 5 ans là-bas, et que la police vienne me voir. Et en général, tu leur dis, c'est pas politique ni religieux, dans le sens où tu soutiens pas un parti politique en particulier. Après, t'as le droit de faire des remarques générales sur la politique, la corruption et tout. Enfin, moi, à l'époque, j'avais pas de problème à cause de ça. Mais j'avais la chance d'être un occidental dans ce pays-là aussi, tu vois. J'étais un étranger. Et les flics, en général, ils terminaient par prendre un selfie devant et partir, quoi. Donc, c'était quand même autrement plus facile qu'ici, à l'époque, en tout cas. Est-ce que... Comment vous pourriez vous décrire, par rapport à votre style de graffiti, à vous, enfin votre école de graffiti, l'importance de voyager ? Marco, il l'a déjà fait de plusieurs manières, mais tu peux développer encore. En fait, c'est une question qui résume un peu tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce que ça vous a appris ? À quoi ça peut servir ? Et est-ce que vous comptez continuer à voyager ? Ça, je pense que j'ai déjà la réponse, voyager pour le graff. Quelqu'un a un micro à lui passer ? Très bien. Le début de la question, c'était comment tu te décrirais, par exemple, pour quelqu'un qui graffe un peu dans la même école de graffe que toi, l'importance de voyager.
Bah après, ouais, c'est personnel, quoi. J'aime bien. Tu vois, je suis toute l'année à Saint-Denis, et avec les années Saint-Denis, des fois j'en ai marre, quoi. Tu vois, je me barre. Et puis quand je reviens, je vois le panneau Saint-Denis, je suis content, mais j'ai besoin de partir, quoi. Et voilà, c'est des moments dans ta vie aussi, comme ça, quoi. Après, ma situation me le permet, tu vois, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, je dois être compte à personne. Si je veux me barrer demain, je me barre. Mais ouais, pour moi, je sais pas, c'est hyper important de voyager. Et quand tu commences à voyager, tu te rends compte que la Terre est grande, quoi. Et c'est toujours ce besoin aussi, c'est une manière de, voilà, de connecter des gens. C'est une manière de connecter des gens au sens le plus large. Je pense que l'art, un danseur, un écrivain, un peintre... Il a une clé pour ouvrir toutes les portes des couches sociales du monde entier. Et souvent, d'où on vient, bah, quelquefois, on est catégorisé, etc. Et comme je te disais, tu vas à l'étranger, tu vas être mieux accueilli. Et moi, je peux me retrouver en train de peindre dans une favela à Rio. Puis 3 semaines après, je peux me retrouver dans une maison, à peindre dans une maison à Hollywood. Et je suis habillé pareil. Et ça me permet... ouais, mon art m'a permis de faire un 360 degrés un peu sur une partie de l'humanité, quoi. Ouais, voilà.
Excellent. Tu prends la suite. Et Dawa, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de voyager? Est-ce que tu comptes continuer à voyager pour graffer?
Pareil, c'est plutôt personnel. Je pense qu'on a la bougeotte ou on l'a pas. Après, c'est des fois dans la vie, oui, on peut ou on peut pas. Ça dépend s'il n'y a pas que l'envie. Malheureusement, il y a aussi la finance et les disponibilités. Mais oui, c'est clairement... Après, vu qu'on l'a en nous, c'est une passion. Donc, pour toute passion, ça, il n'y a pas de frontières. Donc, que ce soit de la musique, de la danse, nous, c'est le graphe. Enfin, voilà, ça. Comme tu as dit, c'est une grande famille. Donc, je pense même au pôle Sud, si on tombe sur un tagueur, ah, vas-y, fais voir, viens, je te passe mon marqueur. Enfin, ça va aller vite, quoi. Pareil pour la musique. Enfin, c'est tellement. On est tous connectés, en fait, quoi. C'est juste, on est tous humains. Donc, c'est juste naturel. En fait, il n'y a pas de mur. C'est comme ça. Oui, il n'y a pas de porte dessus.
Bah, tu vois, moi, je me suis jamais dit dans ma vie, je vais voyager pour peindre, tu vois. Je voyage et tout. Mais à Los Angeles, Rio ou à Paris, je suis toujours le même. Donc, en fait, je reste le même. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, comme il disait, c'est vrai que l'art en général, ça casse les barrières. Après, c'est pour les personnes vraiment sincères qui aiment ça et qui respectent ton truc, tu vois. Pas surfer sur une vague. Enfin, ça, c'est autre chose, tu vois. Mais ouais, c'est intéressant, le grand écart social que tu peux toucher grâce à ça, comme disait Marco et tout. Mais après, c'est vrai que moi, il n'y a pas un voyage où j'ai pas... Par contre, il n'y a pas un voyage où j'ai pas, même ne serait-ce que fait un tag, au moins, tu vois. Ça, sinon, je suis pas bien, tu vois. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ah, voilà.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on peint dans un pays qui n'est pas le sien? On n'a même pas abordé ça, justement, le fait de mettre son nom, vu qu'un graffeur fait quelque chose pour être vu, ça ne fait pas ressentir la même chose. Ah, ça fait plaisir. De peindre dans sa ville ou dans le quartier où il y a déjà 77 tags au mètre carré avec
notre place. Non, ça fait plaisir. Enfin, c'est... Ouais, t'es content, tu vois. Après, je ne veux pas dire que t'as gagné la Coupe du Monde, mais t'es content. Voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, je sais pas, ouais.
Après, ça dépend, je pense, des projets et tout ça, mais c'est un égo trip de bâtard, en fait. J'avais l'impression de revenir comme au début où je taguais partout et tout. Ouais, vas-y, c'est charmé, c'est pas chez moi, je m'en fous. Les gens, ils parlent, j'entends pas. Je comprends même pas ce que tu me dis, en fait. Je m'en balèque et... Ouais, non, on est un peu perché quand même. Je le reconnais. Mais ouais, je sais pas si ça vous a fait ça aussi, vous, par moment. Mais après, voilà, ça dépend si c'est un festoche ou c'est vraiment encadré et tout, ou si c'est. Plus vandale, en fait, quoi. Voilà.
Mais j'aurais tendance à dire comme Xor, en fait. En fait, de base, au début, quand j'ai commencé à graffer, j'avais quand même ce truc d'avoir la curiosité de voyager et de voir ce qui se passe ailleurs, même hors graphe. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un voyage à partir du moment où j'ai commencé à faire du graphe, où je n'ai pas graffé, alors qu'initialement, je me disais, bon, vas-y, je vais aller à Barcelone, bon, je vais aller regarder les Ramblas, je vais aller regarder la Sagrada Familia. Mais c'est presque naturel, même, j'ai envie de dire. Enfin, tu te dis forcément que tu vas le faire, en fait. Donc, même pas la question. Enfin, moi, je me pose pas la question, en tout cas. Parce que je sais que dans tous les cas, il y en aura. Donc, ouais.
Moi, j'ai tendance à être un peu comme Dawa. Enfin, je sais que les fois où j'ai voyagé, quand tu arrives dans une ville où tu vois qu'il y en a beaucoup, tu sais que tu vas découvrir plein de styles, plein de trucs comme ça et tout. Et c'est pas une question d'ego trip, parce que tu vas pas prendre des photos de tes tags, par exemple, et puis tu vas pas les revoir parce que tu vas rester une semaine ou un mois sur place et tu pars. Mais tu as des frénésies comme au début. Je me reconnais vachement dans ce que tu as dit. Quelque chose, Cabrit?
Ouais, je rajoute là-dessus que pour moi, c'était en arrivant à Paris quand même, en arrivant à Paris, une grande ville, une capitale du graffiti mondial quand même. Et en venant de mon petit coin, on se connaît tous, on connaît tous les mêmes blazes. Et bon, OK, il y a du passage des voyageurs, quoi. Le fait de rentrer dans le métro, par exemple, et de voir les tags récurrents, de les pêcher ici, là-bas, de retrouver un certain motif au fait qui se répète, que ce soit à travers d'autres villes. Des fois, on se dit, mais attends, ça, je l'ai vu à Lyon, mais aussi, je l'ai vu en même temps à Berlin, je l'ai vu je sais plus où. Et ça crée au fait des liens, des fils de connexion. On a l'impression aussi d'être en train d'infiltrer un monde sur une autre couche, disons. On est un peu, ça vient d'ici, j'imagine, l'appellation « underground ». C'est le fait de circuler dans un contre-courant, dans une sous-culture, dans quelque chose qui vient lier finalement le monde qui est si vaste avec ces éléments très précis, très limités finalement, pas limités mais genre repérables quoi. Ça crée du sens pour moi, j'ai l'impression en tout cas, tu vois, genre ça donne une âme à une ville et c'est beau.
Ouais, c'est pas mal, je pense, que tu dis, parce que bon, après, c'est, je sais pas si c'est très français, je veux dire, mais on est quand même chanceux d'être en Île-de-France et il y a beaucoup de mouvements qui se passent à Paris. Et bon, j'ai pas énormément voyagé dans ma vie, mais j'ai beaucoup voyagé dans mon Île-de-France, parce que c'est quand même l'Île-de-France. Enfin, tous les départements, j'ai mes petits chouchous, mais. Mais même si on vient de la banlieue, lointaine ou pas, mais on passe tous dans Paris. Et c'est vrai qu'il y a énormément de passages, même des étrangers qui viennent de vraiment très loin. Et il y a toujours des connexions qui se font et on entend. Mais ouais, non, Paris, c'est quand même très fédérateur quand même. Quoi. Même si on s'exporte, ça se passe à Paris. Quoi.
Quelque part, on se sent chez soi aussi. Oui, l'impression que tu vois à travers le graphe.
J'ai pas beaucoup lu. Mais il y a une phrase d'un mec, bon, il l'a écrit dans un livre que j'ai pas lu, mais une belle phrase qui dit « L'aventure commence en bas de chez toi ». Tu vois, ça rejoint un peu ce que tu dis et tout. Des fois, tu vas chercher à 10 000 km ce qui est en bas de chez toi. Mais on est tellement dans une matrice, un truc, métro, boulot, dodo, on lève même plus la tête. On prend plus le temps d'observer les autres, de parler avec les autres. Puis maintenant, il y a le smartphone, il y a tout ça. Et faut prendre le temps, quoi. Et quand on lève la tête, ben on voit, je sais pas, des immeubles qui sont beaux, je sais pas, on voit un enfant qui rit avec le soleil dessus, enfin je sais pas, il y a des, voilà, l'aventure peut commencer en bas de chez toi, quoi. Il y a des rencontres, plein de choses.
Mais c'est à ça que sert le voyage aussi, parce que à chaque fois que tu reviens, tu vois ton quartier complètement différemment. Il y a des nouvelles personnes qui ont commencé à graffer.
Même t'as en toi de l'énergie et tout. Là. 10 jours, clairement. Ça dure. Après, les gens ils te l'attrapent l'énergie, il y a 10 jours où t'es bien et les gens le ressentent. Hein. C'est comme ça, quoi. Mais moi, j'aimerais être un touriste dans ma vie, dans ma ville. Tu vois ce que je veux dire ? Être émerveillé de tout. Ouais, tu vois.
Plus tu parles longtemps, plus ça te fait ça, en général.
Ah, mais c'est marrant, la dernière phrase qu'il vient de dire, parce que moi, je me suis toujours... Moi, je suis un vrai Parisien, tu vois. C'est-à-dire, je suis né à Paname, j'ai tout fait ici, tu vois. Et je me suis toujours dit... Alors, c'est peut-être parce que je suis né à Paname et je connais ma ville par cœur, même si je la découvre tous les jours, tu vois. Mais quand même, je la connais quand même, tu vois. Et je me suis toujours dit, moi, en fait, je me considère comme un provincial à Paname, tu vois. En fait, j'ai pas la caricature du mec speed, tu sais, le Parisien ou la Parisienne, là, tu sais. C'est la caricature, quoi, tu vois. Ouais, les gens, ils marchent vite, mais ils savent pas pourquoi, en fait. Tu sais, ils ont rendez-vous dans une heure, ils sont à 5 minutes, mais ils vont marcher vite. Je sais pas comment t'expliquer. Enfin, bref. Et en fait, il a raison, Marco, faut prendre le temps de vivre, de regarder ce qui nous entoure. Voilà, relaxer, tu vois, au calme. Ouais, voilà.
Et merci beaucoup. C'était la 3e édition de la L2P conférence. Alors, place.
La place. L2P convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par la place.